بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم احفظ أولادنا من شياطين الإنس والجن، واصلح أزواجنا واجعل خير عملنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. Donc on va parler aujourd'hui du mariage, du couple, un thème qui est important. Pourquoi est-il important? Parce que on va passer la plupart de notre vie à vivre en couple. Et si on n'apprend pas à vivre en couple, notre vie peut devenir un enfer. Et avant de vivre en couple, il faut choisir son conjoint. Et si on se trompe dans le choix du conjoint, notre vie peut devenir aussi un cauchemar. Ainsi, ce thème du mariage est sans doute le plus important après celui de la foi, la aqidah. Car beaucoup de gens ont perdu la foi à cause d'un échec dans la vie de tous les jours. Beaucoup ont quitté la religion à cause d'une épreuve dans les relations entre conjoints. Beaucoup ont peur d'aller vers la religion, d'aller vers Dieu, à cause de l'idée qu'ils se font de la vie en couple d'après la religion musulmane. Si ton bonheur sur terre dépend de ta réussite, entre autres, pas uniquement, ton bonheur sur terre dépend de ta réussite dans ton couple, et aussi ton bonheur dans l'au-delà dépend de cela. Une épouse peut te pousser au coffre, comme un mari peut te pousser au coffre. Je ne dis pas ça parce que je l'ai lu, mais parce que je l'ai vu et je l'ai entendu. Il y a quelques jours, j'ai passé toute une après-midi avec un frère qui m'a rendu visite, jazallahu khairan, quelqu'un de très sage, et on discutait de da'wa, de conférences, etc. Et il m'a fait une remarque très pertinente. Et il a dit, il y a deux types de conférenciers. Il y a ceux qui prennent la théorie, le Coran, la Sunna, les hadiths, et qui les balancent, qui les exposent. Et ils invitent les gens à aller vers cet idéal, sans tenir compte du public lui-même, de sa composition. Et puis il y a d'autres qui partent de la réalité, qui évoquent les problèmes, et qui essaie de trouver des solutions dans le Coran et la Sunna. Et le frère a justement dit que il valait mieux être terre à terre, parler de ce que l'on vit, de ce que vivent les autres, de la réalité de qui nous sommes réellement. Parce que vous êtes tous d'accord que nous ne sommes pas des anges. On est sans doute, quand on est réunis, comme aujourd'hui ou quand on est à la mosquée, de très bons musulmans, n'est-ce pas? On se dit salam alaikum, on est souriant, on est agréable, on est très pieux. Mais c'est sans doute, pour la plupart d'entre nous, une piété qui est limitée dans le temps et l'espace. Et une fois qu'on se sépare et qu'on retourne chez nous, généralement, on vit tous, chacun sa galère. Qu'est-ce qui se passe? On redevient les êtres que nous sommes réellement, avec nos faiblesses, avec nos défauts, avec notre éducation, dans beaucoup de cas, qui a été ratée. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là où on a du mal à vivre notre religion. Notre religion, on la vit plus ou moins bien quand on est à la mosquée, quand on est entre frères, quand on est entre sœurs. Je dis plus ou moins bien parce qu'il y a quand même des difficultés. Mais là où c'est l'échec, et je ne l'ai pas lu dans les livres, hein, cet échec, je le vois, je l'entends, je le vis avec les problèmes qui existent dans la communauté, là où est l'échec, là où l'échec est le plus cuisant, c'est dans les familles. Et je ne parle pas de ceux qui sont loin de la religion, qui ne pratiquent pas la religion. Je parle de ceux qui sont soucieux d'être de bons pratiquants, ceux qui sont soucieux d'être proches de Dieu. Alors s'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore mariés, écoutez, celui qui est intelligent, c'est celui qui tire des leçons de ce qui arrive aux autres, de ce qui arrive aux autres. C'est lui l'intelligent. Quant à celui qui recommence les mêmes erreurs que les autres, tant pis pour lui. Il est sourd, muet et aveugle. Et ça coûte très cher de refaire des erreurs, surtout dans le domaine du couple. C'est un virage, wallah, il ne faut pas le rater. Il faut savoir le négocier. Et la meilleure façon de négocier ce virage, c'est d'abord de faire un peu de théorie, d'apprendre son code de la route, ensuite de le respecter. Alors je vais intervenir, et je vais dire beaucoup de choses, j'espère, Inch'Allah. Mais beaucoup de choses que vous allez entendre aujourd'hui vont vous choquer. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour dire ce que je pense, ce que j'estime être vrai, bon, juste, ce que j'estime être le plus proche de la vérité. On est là pour discuter. Vous êtes là pour donner votre avis, pour discuter ce que vous allez entendre. Mais ce que je vais dire va choquer, vous savez pourquoi? Parce que beaucoup parmi nous rêvent. Et nous, notre éducation en tant qu'occidentaux est une éducation qui est basée sur le rêve, la télévision, le cinéma, les romans. On se fait beaucoup de films dans la tête. Et quand il s'agit de jouer son rôle de mari au quotidien, on devient des acteurs nuls. Quand il s'agit de jouer le rôle d'épouse au quotidien, c'est l'échec total. Ça prouve que on a du mal à saisir les buts nobles de notre religion et les buts du mariage. Alors on va commencer par le commencement, le choix du conjoint. Tout être humain normalement constitué aspire au mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est le seul moyen dans notre religion d'avoir des rapports sexuels avec la personne du sexe opposé. C'est pour cela que le mariage s'impose pour nous musulmans. Il ne s'impose pas pour beaucoup de monde qui se permettent et s'autorisent la fornication. Mais pour nous musulmans, on sait que c'est haram. C'est pour cela que nous sommes voués, tôt ou tard, à nous marier. Alors il faut se préparer. Et malheureusement, on prépare la jeunesse aujourd'hui à beaucoup de choses, mais on ne la prépare pas au mariage. Vous allez à la NPE, vous allez voir. Vous avez tous les stages possibles et inimaginables. Et vous ne trouverez aucune formation, ni stage, pour apprendre quoi? Pour être formé pour devenir un père ou un mari. Ça n'existe pas. Vous êtes tous d'accord? Et pourtant, c'est ce vers quoi nous allons tous tendre. On va tous devenir des papas un jour ou l'autre et des maris. Et malheureusement, on ne nous enseigne pas comment être un père, comment être un bon père, comment être un bon époux. C'est malheureux quand même. Les filles d'eux-mêmes, on les incite à faire des études alors qu'on sait très bien que tôt ou tard, quels que soient ses diplômes, elle va vers quoi? Elle va vers une fonction qui est la fonction d'épouse, qui est la fonction de mère. Et elle n'obtient aucun diplôme dans ce domaine, la pauvre. Elle est livrée à elle-même. Elle est livrée seule, dans la plupart des cas, à faire une tâche qui est la plus difficile sur Terre. Car croyez-moi, là je le dis par expérience personnelle, tout est facile. Il n'y a qu'une chose qui est dure, c'est d'être un père à la hauteur et d'être un mari à la hauteur. Le reste, c'est du jeu. Les travaux physiques, les travaux intellectuels. Tout est facile, sauf être un père à la hauteur et être un époux à la hauteur. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que si vous travaillez, c'est 8 heures par jour. Allez, admettons, vous êtes exploité par votre patron. C'est 12 heures. Profession libérale, 14 heures. Prends le nombre de temps que tu veux. Ta profession, ton travail est limité dans le temps. C'est pas 24 heures sur 24. Quant à être un mari, c'est tous les jours, sans arrêt. Dehors et à l'intérieur. Être un père, c'est tous les jours et sans arrêt. Il n'y a pas de repos. Tu dois toujours être au garde à vous. Et malheureusement, on ne nous apprend pas ce métier qui est formidable, hein, car la plus belle des choses, c'est de laisser des enfants qui seront montrés du doigt parce que ce sont d'honnêtes personnes, d'honnêtes gens. Et ce qu'il y a de meilleur aussi, c'est de rendre quelqu'un heureux, entre autres sa femme ou son mari. Et malheureusement, Wallah al-Azim, c'est ce qui doit nous révolter. On ne nous apprend pas à être des pères, à être des conjoints. Même nos parents, l'aral, les pauvres, que Dieu les bénisse et les récompense, ils nous donnent à manger, ils nous donnent à boire, ils nous donnent l'argent pour acheter des vêtements, ils nous envoient à l'école, ils sont prêts à nous payer nos études à l'étranger, partout, mais ils oublient de nous transmettre le savoir qui est le plus important. Vous trouvez aujourd'hui les mères qui incitent leurs filles à aller dehors pour chercher du travail, pour étudier. On n'est pas contre. Les mères ne prennent plus leurs filles, leur disent, voilà, tu vas te marier dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et la fille Miskina, avant son mariage, on la prépare. Ouais. Les bijoux, les robes, la fête, la nourriture. On a tout résumé le mariage à quoi? Une festivité. Et après, on la lâche dans la fauve au lion. Naam, c'est la réalité. On s'étonne des résultats. Non, des résultats sont dus à quoi? Sont dus au manquement dans les domaines que nous avons cités. Alors avant de choisir son conjoint, faudrait peut-être d'abord se faire une idée sur qu'est-ce qu'un conjoint? Non? Logique. On se posait la question, je cherche une épouse, je cherche un époux. Mais attendez, pour qu'il y ait une épouse, il faut qu'il y ait un époux. Suis-je un époux? Je suis à la hauteur de ce titre que je vais traîner toute ma vie? Quand on cherche, les frères, quand ils cherchent une femme, je voudrais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y en a pas un qui se posait la question, moi je dois être comme ça, je dois être comme ça. On ne se pose pas la question, on cherche toujours comment l'autre doit-il être. On ne se demande pas nous comment nous devons être. Pas le mouchkil, il est là. Et toute la vie de couple, vous allez voir, ça va être une problématique qui est la suivante. L'autre, l'autre. Quand il y a des disputes dans un couple, elle a fait ou elle n'a pas fait. Alors, je suis intervenu dans des centaines de couples pour essayer de trouver des arrangements. C'est toujours le même baratin. Elle a fait, elle n'a pas fait. Oui, mais c'est de sa faute. Il n'y en a pas un qui dit c'est de ma faute. Subhanallah. Il n'y en a pas un qui reconnaît que c'est lui le fautif, que ce soit la femme ou que ce soit l'homme. C'est toujours l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que dès le début, quand on a cherché une femme ou un homme, on s'est projeté là où il ne fallait pas. On a rêvé. Hein, il me faudrait une femme qui soit comme ça, il faudrait un mec qui soit comme ça. Calmez-vous. Votre conjoint sera votre image. Votre conjoint sera à votre image. Et l'être humain, par nature, copie. S'il a une bonne copie en face de lui, il y a une bonne note. Vous êtes bien d'accord? On triche. Au quotidien, on triche. On regarde les autres et on essaie de faire comme eux. Si le mec d'à côté, c'est un bon bosseur, t'auras une bonne note. Si c'est un mauvais bosseur, t'auras une mauvaise note. Si toi, homme, tu es à la hauteur, même si ta future épouse n'est pas à la hauteur, elle va tricher sur toi et elle va évoluer grâce à toi. Mais si tu es bas, Wallah, et si elle est en haut, elle va descendre, Miskina. Elle va descendre, elle va chuter. Dans tous les domaines, même le religieux, combien de femmes étaient des très bonnes pratiquantes? Elles se sont mariées avec des mecs qui étaient des pratiquants à moitié. Elle a perdu le moral, elle a tout arrêté. Bien sûr. On peut pousser notre conjoint à ne plus aimer Dieu et son prophète parce que nous n'avons pas été à la hauteur pour lui permettre d'évoluer et de s'épanouir. Ainsi, avant de choisir son conjoint, choisissez d'abord ce que vous voulez être. Choisissez d'abord la personnalité que vous voulez être quand vous serez marié. C'est pour cela, beaucoup de jeunes rêvent. C'est une histoire de rêve, hein. Jusqu'au jour où on ouvrira les yeux devant la réalité, on va pleurer. Hein, jusqu'au jour où on va mourir, on va voir l'au-delà, on va pleurer. De même, la vie sur terre, nos parents, ne faites pas ceci, sinon ceci va vous arriver. Oh là là, ils me prennent la tête, ces vieux, ils sont vieux jeux, ils comprennent rien, ils n'ont pas étudié. Jusqu'au jour où ce qu'ils nous disent arrive, on ouvre les yeux, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. De même, écoutez bien, hein, les non-mariés ou là, les mariés récemment, écoutez bien, car le jour où vous allez ouvrir les yeux, vous allez pleurer. Et vous n'aurez que vos mouchoirs pour vous réconforter. Et wallah que ça fait mal. Alors, il faudrait d'abord, au préalable, au lieu de rêver et de se dire, ah, Inch'Allah, je vais me marier, dès que je me marierai, je vais faire des prières, je vais lire le Coran. Vous savez, les plans là. Ouais, quand je serai marié, je serai un bon musulman. Oh là, la fille, elle dit, Inch'Allah, quand je serai marié, je porterai mon voile, j'arrêterai d'écouter la musique, je ne sortirai plus. C'est un rêve. Elle se projette dans l'avenir. Vous savez pourquoi elle se projette dans l'avenir? Parce qu'elle est incapable de changer maintenant. Alors elle repousse le changement. Elle ne veut pas faire d'efforts maintenant. Alors, elle se fixe une date ultérieure dans laquelle elle espère que ce jour-là, son Roméo, je ne sais pas par quel moyen, il va lui permettre de se transformer. Vous rêvez. Si maintenant, vous ne changez pas, vous ne changerez pas quand vous serez marié. Il y a toujours les exceptions, hein, attention. Mais je vous parle de la règle générale. Il y a toujours les exceptions. Mais la règle générale, c'est que celui qui ne fait pas des efforts maintenant pour se débarrasser de ses défauts, de ses faiblesses, de ses manquements, c'est parce qu'il y aura une femme qui se débarrassera de tout cela. Là, j'ai vu des frères, dès qu'avant de se marier, ils ont pris une feuille. Ah, tu veux m'épouser? À une condition. On doit lire 2 hadiths par jour de Coran. On doit jeûner 4 mois tous les mois. On doit faire ceci. Le mec qui fait rien de tout cela. Voilà qu'il est avec sa femme, quoi, les chauffe. Je veux bien me marier avec toi, mais chose qu'on doit faire. Il se marie, ça dure 15 jours. 15 jours, je suis gentil. Hein. Et après, c'est quoi? Et après, c'est retour en arrière. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on croyait que c'était cette opération qui s'appelle le mariage qui allait changer ma vie. C'est faux. Celui qui veut changer, qu'il change maintenant, qu'il n'attende pas le mariage pour changer. Car peut-être que le mariage va être pour lui une malédiction et non pas une miséricorde. Eh oui. Donc attention. Avant de chercher un conjoint, il faut d'abord se chercher soi-même. Quand tu auras trouvé ta propre personne, quand tu te seras découvert, quand tu sauras qui tu es, tu auras plus de facilité à trouver quelqu'un d'autre. Mais celui qui s'égare dans ses pensées, dans ses idées, dans ses comportements, il s'égarera dans son choix. Dieu dit dans le Coran, At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Eh oui. C'est une règle, il y a toujours des exceptions. Walakin, tu n'as que ce que tu mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, La meilleure des choses que Dieu donne à un croyant après la foi, c'est une femme idéale. La nerf de dire, si tu crains Dieu, donc tu fais les efforts pour le craindre, tu es pieux, Dieu t'offre un cadeau qui s'appelle une épouse qui va te permettre d'évoluer dans ta piété. Mais si au niveau de ta piété, tu es déjà nul, et tu cherches une épouse pour évoluer dans ta piété, tu rêves. Il y a toujours des exceptions, hein. Tu trouves le frère qui est pieux et il tombe sur une épouse satanique et diabolique. Disons que c'est une épreuve, d'accord? Mais pour toi, essaie d'abord d'être proche de Dieu et tu pourras être proche ensuite des êtres humains et de ta future épouse en particulier. Donc, le choix, la recherche du conjoint, avant, il doit y avoir quelque chose de plus important qui est la recherche de soi-même. Et le choix de la personne que nous voulons être. Posez-vous des questions. Qui suis-je au jour J, aujourd'hui? Est-ce que je suis la personne que l'on montre du doigt parce que je suis correct? Est-ce que en public, j'ai un comportement et en privé, j'ai le même comportement? Ou est-ce que je joue avec ma religion, avec les gens? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Tout problème réside ici, c'est la sincérité. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait une rencontre avec une sœur ou là avec un frère? Tout va bien. Hein? Oh, tout va bien. Tu peux demander ce que tu veux, celui qui est en face, il te dira naam. Celle qui est en face te dira ok. Ah, les promesses, il n'y a pas de problème. On en fait autant qu'on veut. Et tout est beau. L'adab, l'hishma, on n'ose même pas se regarder tellement on craint Dieu, mon œil. Hein? C'est beaucoup de semblants. C'est beaucoup de semblants, vous comprenez? Et le semblant, c'est ce qui tue. On n'a rien de mieux que de rester naturel et d'être soi-même. Sinon, c'est de la triche. Combien de sœurs se sont fait avoir? Avec des frères qui débarquent, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession, comme disent les chrétiens. Et pour elle, un bon musulman, c'est celui qui a une barbe, plus elle est longue, plus il est pieux, celui qui a une tenue vestimentaire bien définie, celui qui dit des mashallah au lieu des virgules, qui dit des subhanallah à tous les bouts de champ. Pour elle, c'est bon, vous comprenez? Ouais, c'est un bon musulman. Mais peut-être que c'est du semblant tout cela, parce que la situation veut que justement... Vous êtes bien d'accord, hein? Le mec, quand il va rencontrer une fille, il va pas s'amuser à déconner, à sortir ses gros mots, parce que qu'est-ce qui va se passer? Elle va l'envoyer balader, hein? Vous êtes bien d'accord? Matrache, elle t'enverra balader un jour ou l'autre. Tu sais pourquoi elle t'enverra balader? Parce que ce jour-là, t'as triché, t'as trompé. Et c'est ce qui se passe, Wallah, c'est ce qui se passe. Hein? Tu n'as pas été toi-même le jour où tu as fait cette rencontre. Ouais. Alors faites attention, Allah et Balkfikum. Il faudrait qu'on se remette en question et que l'on sache ce que l'on veut. Et généralement, les conflits qui existent dans les couples aujourd'hui, vous savez à quoi ils sont dus? Ils sont dus au passé de chaque individu. Dans les couples aujourd'hui, nous gérons des problématiques qui sont des problématiques qui ne sont pas nées le jour du mariage ou durant la vie de couple. Mais ce sont des problèmes qui remontent à la vie antérieure au couple. Que ce soit quand la personne était jeune, adolescente, une crise d'adolescence mal vécue, l'éducation parentale, ouais, ou que ce soit la vie que menait ce post-adolescent, tous ces problèmes de jeunesse, même d'enfance, qui n'ont pas été résolus, nous les retrouvons quand lors de la vie de couple. J'avais affaire à un couple et j'essayais de trouver des solutions, rien à faire. Jusqu'au jour où je trouve quelqu'un qui vient m'expliquer la personnalité du frère. Ce frère Mskine, toute sa vie, quand il était petit, il a été battu par sa mère. Et sa mère, c'était le père et la mère, et c'était quelqu'un de très dur, de très méchant, etc. Le frère, il n'a pas un problème de prière, un problème de ramadan, un problème de mashallah et de bismillah. Au niveau de sa religion, ça va. Mais il a un problème que seuls les psychologues ou les psychiatres pourront résoudre. Pourquoi? Parce que, regardez ce qu'il a vécu, Mskine. Et pour lui, la femme, c'est un danger, il faut qu'il la domine. Et c'est ça le mouchkil, c'est que on ne connaît pas généralement le passé de la personne. Et on croit qu'une rencontre, que quelques mois suffisent pour connaître l'individu. Et puis après, quand on découvre les tréfonds de l'individu, les parties cachées, ça fait mal. Alors les frères, les sœurs, Allah yebarakfikoum, ne trichez pas, ne trompez pas, car ça se retournera contre vous un jour ou l'autre. Soyez francs et directs. Voilà qui suis-je. C'est à prendre ou à laisser. Sans tourner autour du pot. Et c'est comme ça qu'étaient les compagnons, radiallahu anhum. Bilal vient avec son frère pour demander une femme en mariage, pour son frère. Et la famille de la fille se dit, oh, c'est le frère de Bilal, super. Elle m'en va lui donner, c'est son frère. Voilà qui est Bilal, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit voilà. Voilà qui est mon frère. Il balance son frère en public. Voilà ses défauts. Il n'a pas dit ses qualités. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ses défauts. Ses qualités, c'est un plus. Moi, je veux connaître ses défauts parce que qu'est-ce qui dérange quand on vit en couple? Ce ne sont pas les qualités, ce sont les défauts. Donc, si les défauts sont supportables, j'accepte. S'ils ne sont pas supportables, je laisse tomber. D'ailleurs, les savants ont pensé à ce problème. Voilà qu'ils l'ont étudié au niveau physique, pas au niveau psychologique. Ainsi, ils disent, celui qui a trompé son épouse et qui lui a caché un défaut physique qu'il a, exemple, une impuissance sexuelle. La femme trompée par son mari a le droit de demander le divorce. Et elle le quitte. Pourquoi? Parce qu'il a triché avec elle. Il lui a pas dit la réalité. Et c'est réciproque. Ouais, vice-versa. Donc, dans le choix du conjoint, nous devons d'abord insister sur notre personne. D'accord? Qui suis-je? D'où viens-je? Et ensuite, dire non pas ce que l'on voudrait devenir, mais ce que l'on est et ce que l'on voudrait réaliser. Alors, dire ce que l'on est, c'est important. Il faut être courageux quand même, hein. Franchement, pour dire à un étranger, à une étrangère, voilà mes manquements, voilà mes défauts. Et ça peut être des choses qui vont vous faire rire, mais qui sont importantes. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes dans des couples aujourd'hui qui sont dus, vous savez quoi? À des habitudes que le conjoint considère comme étant des sales habitudes. Exemple, il y a des frères, ils ont des habitudes alimentaires. Et si l'épouse ne se soumet pas à ses habitudes alimentaires qui lui viennent de sa famille, elle est cuite, Mskina. Elle est cuite. Pour le peu qu'il ne soit pas satisfait dans ce domaine-là. Maintenant, on croit que la cuisine, c'est pas important dans le mariage. Et le batna, le kirsch. Alors que tout tourne autour de lui. C'est lui qui fait le mashakil et le masaïb. D'accord? Mais il faut le dire. Ouais? Il faut le dire. C'est pas un mal en soi-même. Mais ce qui est bien, c'est de le savoir. D'accord? L'autre, il a des habitudes vestimentaires. Il faut que tous les jours, ses habits soient lavés et repassés. La sœur, elle fait ça un mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans, à la fin, elle pète les plombs. Ah, faut dire la vérité. Hein. Plein de problèmes dans le couple qui sont dus à ce genre de choses. L'autre, il a ses habitudes télévisées. Ça aussi, c'est un mouchkil. Et j'en passe, on va parler dans les confins, inchallah, de tout cela. Mais ici, j'ai envie que vous compreniez bien une chose, c'est que dans le choix du conjoint, il faut être franc, Bien entendu, je ne dis pas qu'il faut parler de ses péchés, ouais, de son passé satanique et diabolique. Là, ça, ce ne sont pas des œuvres héroïques qu'il faut évoquer. Ça, ce sont des péchés que Dieu nous pardonne. Il faut qu'ils disparaissent. Sauf s'il y a des conséquences. Il y a une sermskina. On vient, Faddol, c'est lui, frère tout miskin, tout mignon. On ne lui parle pas de son passé, qui était un passé de toxicomane. Il est porteur du virus du sida. Et on l'a marié avec. Et elle le découvre 3 mois après qu'il a le sida par accident quand elle avait un bout de papier. Résultat, sida, ça se transmet ou là, ça ne se transmet pas? Chefto, vous avez vu la tricherie, la tromperie? C'est la réalité des musulmans aujourd'hui, wallah. Famskina, elle a été victime d'une arnaque. Donc il faut être soi-même. Les péchés, comme je vous ai dit, qu'on a fait, que Dieu nous pardonne, Malekine, qui nous sommes, faut pas le cacher. Ce que l'on fait, ce que l'on vit, faut pas le cacher non plus. D'accord? Les frères, il a un rythme de travail accéléré. Naam, et qu'il dise à sa future conjointe, écoute, moi je suis jamais à la maison, je travaille 18 heures sur 24. Il faut le dire. Le frère, il est toujours à la mosquée. Subhanallah, c'est comme ça. Bah, qu'il dise, écoute, on va se marier, ok. Mais attends. Moi, faut pas m'interdire la mosquée. Je suis à la mosquée pendant 5 heures. Le frère, il est dans la da'wa à fond. Il faut le dire tout cela. Sinon, tu vas te marier avec une femme qui va te découvrir après et qui va se dire, oh, je me suis trompé de mec, c'était pas le bon mec. Et elle va vouloir changer pour aller en trouver un autre. Donc, les grandes habitudes que nous avons, ce qui fait notre vie au quotidien, il ne faut pas le cacher, il faut le dire. Maintenant, les projets. Quand on cherche son conjoint, il faut être réaliste, les frères et les sœurs. Il ne faut pas construire des châteaux en Espagne. Soyez réaliste dans le sens où la vie est difficile, elle est compliquée. Ne vous fixez pas des objectifs impossibles, vous allez être déçus. Ne demandez pas à votre conjoint l'impossible, vous allez être déçus. Vous allez vouloir lui faire supporter l'insupportable. Ainsi, si vous devez épouser quelqu'un qui n'est pas à votre hauteur, ne lui demandez pas non plus d'être à votre hauteur si c'est impossible pour lui. Eh oui. Beaucoup de frères épousent des sœurs et ils posent des conditions à la sœur. Ils disent que je veux bien me marier avec toi, mais une condition, c'est que dès qu'on sera marié, tu devras faire ceci dans la religion, ne pas faire ceci vis-à-vis de ta famille. Et ils se fixent des choses que la sœur, elle ne pourra pas supporter. Comme la sœur, elle veut bien se marier, elle accepte. Et une fois qu'on se marie, les conflits commencent. Pourquoi? Parce que on voulait choisir un conjoint qui serait à notre hauteur. Il faut, pour une question de temps, je ne peux plus attendre. Hein, j'ai 30 ans. Si je rate le train, je suis foutu. Mais je prends. Et je lui pose des conditions. Maintenant, ça y va à coup de contrat, c'est ça? Hein, fais des contrats de mariage, Elan. Alors la sœur, elle dit, ok, je veux bien me marier avec toi, mais à une condition. Je continue mes études. Jusqu'où? Non-stop. C'est le jour où je m'arrête. Mais toi, tu n'as pas à m'interdire de m'arrêter. Et le frère, il dit, Naam, ok, pas de problème. Il est content. Elle est intelligente, elle fait des études intellectuelles. Il voit pas encore les problèmes. Hein? Le coup de vent, là, à la maison, elle n'est jamais là. Il rentre, il n'y a rien à manger. Ok? Il veut des enfants quand il est, hop, je dois pondre un mémoire. Et le frère, il accepte. Poser une condition. Un an plus tard, même pas 6 mois plus tard, Debza à la maison. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit stop, non. Il lui dit même pas. S'il est intelligent, il sait qu'il a signé un contrat qui s'appelle je dois la laisser faire ses études. Il y a une clause. Et en fait, tous les problèmes tournent autour de cette clause. Il ne peut plus lui interdire parce qu'il a donné sa parole. Et elle s'y accroche. Et après, on parle de faux problèmes. Et en fait, le vrai problème est ici. Mais. Le problème, il a commencé quand? C'est le jour où on a voulu choisir son conjoint. Il faut savoir avec qui tu veux danser, subhanallah. Choisis ta cavalière. C'est logique. Donc attention, hein. Ne vous fixez pas des buts, des objectifs que vous savez très bien que vous ne pourrez pas réaliser ou qui ne sont pas vivables, qui ne sont pas acceptables pour vous, parce que votre envie c'est de ne pas laisser passer l'occasion, la chance, parce qu'un jour ou l'autre vous allez regretter. Ensuite, dans le choix du conjoint, parce que justement nous sommes les fils de la télévision, on a mis toute notre réflexion sur l'aspect et non pas le fond, le physique, ce qui se voit. C'est pas un péché en soi que de vouloir avoir un gentleman, un très beau mari, quoique la beauté c'est relatif, vous êtes bien d'accord? Ouais. De même que c'est pas un péché en soi de vouloir se marier avec Miss Monde. Non, c'est pas un péché en soi. Au contraire, ça fait partie des bonnes choses que Dieu a créées. Mais, le danger des dangers, c'est de croire que la stabilité du couple dépend justement de l'aspect physique de la personne. Vous trompez. Vous vous trompez. Ouais. C'est pour cela que le hadith dit que généralement, quand on cherche à épouser une femme, c'est parce qu'elle est belle, ou elle a de l'argent, ou elle est bien placée. Et il y a des déceptions dans ce domaine. Et le prophète nous dit, idfar bidati din. Insister sur le côté religieux, le côté de l'âme, ouais, le comportement de la personne. Le physique est important, le fric est important, le rang social est important. Mais plus important, au-dessus de tout cela, il y a le religieux. Mais le religieux, qu'est-ce que c'est? Là est le problème. D'accord. Surtout qu'on n'a pas de thermomètre, vous savez. Quand on veut choisir quelqu'un, on lui dit, tiens, s'il te plaît, tu peux me donner ta température religieuse. Hein, vous comprenez? On n'a pas. Tout ce qu'on a, c'est deux yeux et deux oreilles. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde et on entend. Moi, je sais que l'autre qui est en face, il a aussi quelque chose qui s'appelle une langue. Elle est wa'ala, la langue. Elle fait beaucoup de dégâts. Alors, comment choisir son conjoint en mettant en avant ce principe du religieux? Comment? Là, je vais parler avec des sous-entendus. Celui qui veut comprendre, qu'il comprenne. L'habit ne fait pas le musulman. L'habit ne fait pas le musulman. Une bonne musulmane, un bon musulman, n'est pas toujours celui qui a l'aspect d'un musulman. Le hadith dit, si quelqu'un vient frapper à votre porte pour demander votre fille ou votre fils en mariage, si vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, vous n'avez pas de raison de refuser. Donc ce hadith, il parle du religieux et du comportement. Les deux doivent aller de pair. Alors ne regardez pas le côté religieux uniquement, mais regardez le religieux et le comportement. Wallah, avec le sourire, vous pouvez peser une personne. Vous savez, un musulman doit être vivant, il doit être attirant. Un musulman qui ne sourit jamais, qui tire la tête 24 heures sur 24. Allah, il a beau faire des prières toute la nuit, il m'intéresse pas, moi. Ses prières, c'est pour lui. Moi, j'ai besoin de son sourire en tant que femme, oui ou non? C'est ça qui m'intéresse. Oum Darda, elle vient se plaindre de son mari Abu Darda. C'est pas n'importe qui, Abu Darda. Et Salman, quand il voit cela, il dit, qu'est-ce que t'as, Oum Darda? Il dit, bah écoute, tu sais ton frère, là, Abu Darda, ton frère en islam. La nuit, il prie, la journée, il jeûne. Et moi, dans tout cela, à quoi je sers? Je suis une femme, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de... Hey, oui, il était dans... branché sur l'au-delà 24 heures sur 24. Mais c'est pas ça, dans la vie de couple, c'est pas... Bon, il y a des exceptions comme ça, hein. Des exceptions. Mais la règle générale, c'est quoi? C'est que on se marie, non pas pour prier, uniquement, Mais on se marie pour rigoler, pour danser, pour jouir de la vie. Donc le côté rituel, religieux uniquement, n'est pas suffisant. Il faut qu'il soit accompagné du comportement. Et moi, je vous dis, me marier avec une femme ou un mari trop strict, c'est pas bon. Et qu'est-ce que j'entends par strict? J'entends ceci. Des frères ou des sœurs qui ont une approche de la religion qui est fermée. Fermée. C'est pas une approche qui est ouverte. C'est-à-dire, il a des idées et pour lui, c'est comme ça changera jamais. Moi, je vous dis, tout se discute. Tout se discute. Celui qui part avec le principe que il a acquis la vérité, il a raison, Hada, il va s'affronter à un mur. Sa vie va être un échec. Pourquoi? Parce que il aura en face de lui quelqu'un qui a une raison, qui pense, qui a son avis. Et quand la personne va émettre son avis et qu'on ne tiendra pas compte de son avis une fois, deux fois, à la fin, bah, vous savez, c'est pas un meuble une femme hein, ou un homme. C'est quelqu'un, c'est interactif. Donc faites attention. Hein. Les gens qui vous viennent avec des idées, ce qu'on met aux chevaux là. Hein? Des œillères. C'est mal barré. Et moi, je trouve que c'est pas normal, subhanallah. Pour quelqu'un qui est jeune, de ne pas vivre son époque. Et de ne pas être simple. Moi, je vais utiliser le mot, même s'il déplaît à quelqu'un, de ne pas être cool. Et la vie de couple, ça nécessite justement un peu de coolisme, ou je sais pas comment dire. Naam, wallah, ça nécessite cela. Le mec ou la femme qui vous dira que la vie de couple, si on s'assoit sur un tapis pour 10 000 fois, subhanallah, astaghfirullah, hada yadhak alaykoum. Wallah, la vie de couple, si tu veux qu'elle marche, t'as intérêt de savoir sourire, de savoir t'amuser, de savoir raconter des blagues, de savoir t'asseoir et de regarder un bon film avec ta femme, ouais, pour qu'elle se sente bien, savoir la prendre, aller en voyage, aller au restaurant. Ouais, les frères. C'est la réalité, wallah, c'est les gros problèmes qu'il y a dans les couples aujourd'hui. Les couples musulmans, les couples de jeunes musulmans étouffent. Vous savez pourquoi ils étouffent? Parce qu'on a une conception de la religion qui est bloquée, qui est parfois erronée et ça crée des problèmes. Vous vous rendez compte, je reçois des lettres de dizaines d'épouses qui me disent, avant quand on n'était pas mariés, on était épanouis, on vivait. Depuis que je me suis marié, je suis devenu une rose qui est en train de faner. Je meurs dans ma religion et dans ma vie. Qui t'a tué? Qala Allah, qala Rasoul. C'est un mec en face. Tout ce qu'il a appris de la religion, c'est le prophète a dit, Dieu a dit, des interdits. Alors que la religion, c'est pas ça. Mais généralement, on prend de la religion ce qui nous arrange. Haq yuqal. On n'est pas objectif. Les êtres humains ont besoin de vivre. C'est vrai que vers la fin de la vie, vous savez, quand on attend les 40, les 50, les 60, ça ne nous dit plus rien, la télévision, hein, un match de foot, un film, ça ne nous dit rien. Plus on prend de l'âge, plus les plaisirs chez nous perdent de le. Mais quand on est jeune, et les bons débuts font les bonnes fins, vous êtes bien d'accord? Quand on est jeune, la vie de couple a besoin de quoi? Elle a besoin de vie, mais quand je parle de vie, c'est. C'est toujours dans le halal, hein, sans sortir du haram. Vous vous rendez compte, pardon, sans sortir du halal. On reste dans le halal sans sortir du halal, oui. Sans entrer dans le haram. Donc, j'ai l'exemple qui me revient en tête et j'en ai souffert de cet exemple. De cette sœur Mskena, depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a jamais eu la possibilité, ouvrez vos oreilles, ça va vous choquer, mais sachez que c'est la réalité, de sortir avec son mari. Pourquoi? Parce que son mari, il a une conception de la religion, c'est que la femme, elle doit être à la maison. T'as besoin de quelque chose? Je te le ramène. Oui, j'ai besoin de quelque chose. Tu sais quoi? C'est de me balader main dans la main avec toi dans la rue pour que je respire, pour que je voie autre chose. A'ouzou billah. Ada, ça fait pas partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais, s'il te plaît, aller avec toi au restaurant manger un peu. A'ouzou billah. C'est une bid'a. Tu veux manger? Je te ramène tout ce que tu veux. Non, on croit que manger, quand on sort, vous savez, c'est la nourriture qui compte. C'est pas la nourriture qui compte, c'est changer d'ambiance, vous comprenez? C'est voir autre chose. Ou là, le frère, il se marie. La femme, elle rentre dans la maison. Il y a tous les meubles sauf un meuble. Il n'est pas là. Parce que pour lui, c'est haram, la télévision. Ah, lui, mashallah, lui, il est balèze. La télévision, on n'a pas besoin. Tant mieux pour lui, hein. Je critique pas les frères qui n'ont pas de télévision. Je leur dis, vous êtes courageux, continuez. Elle est à la hauteur de rester 24 heures à la maison, toute seule, sans télévision. Fais-le un peu, mon frère, tu vas voir. Fais-le pas une fois. Fais-le pendant 3 mois. Ah, faut pas rêver, les frères. La réalité est la suivante, hein. Moi, j'ai connu des frères. Une fois, j'ai reçu la visite d'un frère. J'avais une petite télévision qu'on m'avait offerte. Et il rentre chez moi. Ah, Oudoubillah, toi, Hassan Iki Hussein, tu fais des conférences et t'as Shaitan chez toi. Naam, le frère, c'était son avis. Il n'y a pas tort, hein. Une bonne partie de la télévision, c'est Shaitan. Mais en elle-même, ce qu'il y a, c'est un bout de ferraille. Donc, j'ai pas voulu, vous savez, relever. J'ai pas voulu parce que, vous savez, c'est Sadaqallah al-Adim. Dieu a parlé, tu dois te taire. Et c'est pas ça, hein. La vie, c'est, tu donnes ton avis, je donne mon avis. Et moi, effectivement, donc j'avais la télévision, je regardais avec ma femme, avec mes enfants, ce qui est halal, ça. Bon, vous connaissez les bienfaits de la télé, mais aussi les méfaits de la télé. 5 ans plus tard, je rentre chez le frère. Punaise, c'est pas une télé que c'est le grand écran. Les points carrés, là. Les coins. Avec la parabole, avec. Et j'avais envie de dire au frère, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça se fait pas, comprenez, on n'est pas là pour truc. Alors, regardez comment la réalité nous apprend. Nous apprend quoi? Elle nous apprend que la vie, c'est pas toujours ce dont on rêve. Et wallah al-azim, beaucoup de sœurs se sont tirées de chez elles. Vous savez à cause de quoi? À cause de certains avis religieux qui sont pas du tout adaptés à notre contexte. Je sais pas, tu te maries avec une fille qui a grandi dans la banlieue. Pendant 22 ans, elle a regardé la télévision. Côte sud, côte nord, côte ouest. Et tu veux du jour au lendemain lui dire stop, tu la sèvres. Elle a besoin de son lait maternel. Naam. Sinon, elle meurt. Ah, bien sûr, faut toujours mettre les limites, hein. Alors, je suis en train de vous dire avec des exemples concrets, j'invente pas, hein. C'est des divorces dont je vous parle maintenant, hein. J'ai pas le droit de donner les noms, secret médical oblige. Walakin, wallah al-azim, il y a des divorces à cause de ça. À cause de ça. Le frère il se marie avec une sœur. Inch'Allah, elle est bien. Écoute, ma sœur, si tu veux qu'on se marie, Anna, je suis un homme très jaloux, faut que tu mettes le niqab. La sœur, elle dit ok. C'est normal, elle dit ok, parce qu'en face de lui, quelqu'un qui est religieux, on lui a dit, tu sais, marie-toi avec quelqu'un qui a peur d'Allah, quelqu'un qui pratique la religion, on lui a dit ça. Donc, elle attend. Donc, dès que. Oui, ok, puis rien dans sa tête, elle dit, bon, je vais lui faire plaisir, je vais mettre le niqab. Elle le met, hein. Une semaine, 15 jours, puis un jour, il a fallu qu'elle sorte de chez elle. Aïe, 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 le massacre. Et ça commence dans sa tête. Et à la fin, c'est quoi le résultat? C'est la révolte. C'est la révolte. La sœur, elle ne supporte plus, elle n'accepte plus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le conflit, c'est le divorce. Mais comment? Tu divorces de cette sœur parce qu'elle ne veut pas mettre le niqab? Elle met le hijab. Non, 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 moi c'est le niqab ou rien du tout. Regardez. Pour ça, je vous dis, faites attention. Le fait d'avoir une idée religieuse arrêtée, qui ne se discute pas alors qu'elle est sujette à la discussion, ça peut donner des conséquences graves. Et le frère qui dit à la sœur, tu n'as pas le droit de parler avec les hommes. Manque de peau, un jour, elle l'a vu parler avec une femme. Blatt, elle dit comment? Moi, j'ai pas le droit de parler qu'un homme, lui parler avec des femmes. Elle dit, soit tu dis c'est haram à une femme de parler avec un homme, je suis d'accord avec toi, mais dis aussi que c'est haram à un homme de parler avec une femme, pas dans un sens. Donc, je me marie avec quelqu'un de religieux, je suis d'accord, hein, avec une religieuse, je suis d'accord. Il faut encore voir quelle religion. Je suis allé très loin là quand j'ai dit ça. Hein. Il faut encore voir quelle approche de l'islam il a. Ah oui. Ah, moi je vous dis la vérité. Comme je dis, comprendra celui qui comprendra. Les dégâts, il y en a assez. Wallah al-Azim, il y en a assez. Il y en a assez des sœurs qui reviennent avec deux gosses, avec trois gosses, parce qu'elles étouffent religieusement parlant. La sœur, un an, n'a pas vu son père ni sa mère. Je veux aller rendre visite à mes parents. Non, pourquoi? C'est pas un droit pour toi. C'est en fonction de quand j'aurai envie. Alors la sœur, elle me dit, est-ce que j'ai le droit de rendre visite à mes parents? Je lui dis, bah c'est humain. Elle dit, ouais, mais lui, il me dit que ce sont ses parents qui sont mes parents. Je lui dis, ouais, il a raison. Ses parents sont devenus tes parents, mais tes parents sont toujours tes parents. Ouais, mais il me dit que c'est pas obligatoire pour moi. Si mon mari ne veut pas. Et donne-moi un hadith. Et on y va. Sors-moi un hadith. Non, ton hadith est sahih, mais est daif. Ça fait quoi? Ça fait un divorce, hein? Qu'est-ce que vous croyez? Tout ça à cause de quoi? À cause d'une religion mal comprise. Ah oui, bien sûr, on dira, ah, celui-là, on le connaît, il est trop cool, il est trop souple. Ouais, wallah, je préfère être un musulman cool et souple et être heureux avec ma femme et avec mes enfants que d'être un musulman soi-disant zama, accroché à la religion et j'explose ma famille. Parce que c'est ce qui se passe, que vous le vouliez ou non. Les statistiques sont là pour prouver que dans toutes les religions, chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, il y a énormément de problèmes qui sont dus à la religion. Les enfants, là-dedans, sont explosés. L'épouse ou l'époux sont malades à cause de la religion. Ce qui n'est pas la religion, il y est pour rien, mais à cause de l'interprétation qu'on fait de la religion. Donc je choisis mon époux, je tiens compte de sa religion et je fais bien attention à son approche de la religion. Je choisis une épouse, je tiens compte de sa religion, je fais bien attention. Regardez les frères, les divorces que ça fait. Et le frère, il épouse une sœur. Et lui, dans sa tête, une musulmane, c'est une musulmane qui doit s'habiller d'une manière bien particulière, vous le savez, vous connaissez la chanson. Alors, cette sœur, elle lui plaît. Elle est belle. Ouais. Puis, elle est bien. Sa famille, elle est bien. Mais ouais, il veut qu'elle porte le hijab. Et elle lui dit, oui, il n'y a pas de problème. On se marie, inshallah, je porte le hijab. Mais il se marie, hein. 3 semaines après, elle porte pas le hijab. 3 mois après, elle porte pas le hijab. La bagarre dans le couple. Il supporte pas, il n'accepte pas. En plus, elle ne tient pas sa parole. Divorce, les frères. Ça se termine en divorce. Il faut être clair, net et précis. Il faut être franc et direct. C'est pour cela. Une autre étape dans le choix du conjoint. Ne choisissez jamais votre conjoint seul. On a besoin d'aide, on est faible. Wallah l'adhim qu'on est faible. Alors faites intervenir qui de droit pour vous aider à choisir. Eh oui. C'est naturel. Il ne faut pas considérer cela comme quelque chose de rabaissant et honteux. Et les premiers qui doivent intervenir pour nous aider dans le choix du conjoint, ce sont nos parents. Allah yahfadhum. Et on n'aime pas tellement que nos parents mettent leur pif dans cette histoire. Parce qu'ils nous mettent beaucoup de bâtons, nos parents. Hein? Et on n'aime pas les bâtons des parents. Alors que ils n'ont pas si souvent tort. Hein? Ils ont plutôt parfois très souvent raison. Alors qu'est-ce qui se passe quand on veut choisir son conjoint? La méthode, les parents vont, choisissent le mec ou la meuf et la colle, elle est presque morte, hein? Allah, je veux dire, elle avait beaucoup de mauvais côtés, elle avait certains bons côtés, mais on est d'accord que, bon, c'est fini, on n'en discute plus de cette méthode-là, Elle n'existe presque plus, elle existe un peu quand même, ouais. La mère qui fait pression sur son fils pour lui ramener sa cousine. Mskina, il cède, en ramène sa cousine. Quand il la découvre, l'Aralbe, c'était pas celle à laquelle il aspirait. Donc qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il aspire à une autre femme. Ou bien la sœur Mskina, on veut la marier avec son cousin du bled. En plus, ça lui permet d'avoir une petite carte d'identité. La sœur Mskina, sous pression, elle cède. Ça se finit mal ou ça se finit bien. Bon, une exception. On va choisir le cas qui revient le plus souvent. Le frère, il a une sœur en tête. Il l'a vue, il la croise, il a sans doute parlé avec elle, il a sans doute déjà noué des relations sentimentales très fortes. On est allé à l'école ensemble, on fait partie du quartier. Khlas. La moitié du chemin est déjà fait, les cœurs sont mariés. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ses parents. Première question que posent les parents, la nationalité. C'est ce qui revient. Il y a certains parents, Allah ibarak, c'est une musulmane, elle est comment? Mais beaucoup de parents nous parlent de nationalité. Vous êtes d'accord? Réciproque, la fille aussi, Mskina. Première question que posent les parents, le mec, il est de quelle nationalité? Il est de quelle origine? On va parler de ce problème dans le choix du conjoint. Vous êtes tous d'accord, on le sait, c'est de la théorie, on est tous musulmans, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de nationalité. On est d'accord, ok? Les exemples sont là pour le prouver. Le prophète qui se marie avec une copte, avec une chrétienne, avec une juive convertie à l'islam. Tout ça, on le sait, c'est super, c'est magnifique. Il faut qu'on éduque nos enfants dans ce sens. Mais vous êtes bien d'accord que la génération de nos parents est là. Et que leur islam est là, et qu'il nous est imposé, qu'on le veuille ou non. Quand je dis leur islam, c'est l'islam avec les coutumes, c'est l'islam avec tout ce que vous voulez. Alors c'est le cas typique de la sœur qui veut se marier avec un frère, mais qui n'est pas de la bonne nationalité, c'est-à-dire la nationalité des parents. Question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, notre habitude c'était de dire, si c'est un bon musulman, tu te maries avec lui. Si c'est une bonne musulmane, tu la prends quand même. Moi, je vous dirais, chers frères, chères sœurs, choisissez votre conjoint de la manière suivante. Regardez sa religiosité, regardez son comportement et troisièmement, regardez son origine. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça marche? Parce que vous avez peut-être la même langue. Je donne un exemple. Je connais un frère, il s'est marié avec une sœur. Ouais, il est berbère. Il aime sa mère. Il s'est marié avec cette sœur. Sa mère ne s'est pas opposée parce qu'elle aime son fils, elle a confiance en lui. Ils sont mariés, ils sont très heureux, hein. Mais le mouchkil, c'est quand il va voir sa mère avec sa femme. Sa mère est assise dans un coin du fauteuil, sa femme est assise dans un coin du fauteuil. Et elles se regardent dans les yeux. Elles ne peuvent pas communiquer. À cause de quoi, à votre avis? Ben, la mère, elle parle que le berbère. Elle parle ni le français ni l'arabe. Et la sœur ne parle pas le berbère, elle parle que le français. Ben, ça gêne la mère, elle est mal à l'aise. Ça gêne la sœur, ça gêne le frère. Attendez, quand toute la famille débarque, qu'est-ce qu'on parle comme langue? Le zron zron, le berbère. Ah ben, Mskina, la sœur, elle est toute seule dans un coin. Et elle regarde la montre. Alors, à la fin, la sœur, elle ne veut plus aller rendre visite à la famille de son mari. Pourquoi? Oh, j'en ai marre d'aller là-bas. Allez, je t'en ai marre. Parce que quand j'y vais, vous ne me calculez pas. Je suis dans un coin toute seule, il n'y a personne qui parle avec moi, il n'y a personne qui rigole avec moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a trois personnes ensemble, il faut qu'elles discutent la même langue. Ouais, vous comprenez? Parce que s'il y en a qui ne comprend pas, ben, il va être mal à l'aise. Mais alors, ah oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu devais considérer mes parents comme tes parents, donc tu dois leur rendre visite quand je leur rends visite. Et les conflits commencent, les frères et les sœurs. Eh oui. C'est un cas de figure, hein. Je vous donne un autre cas de figure. Le frère, il est d'origine X, la sœur est d'origine Y. Les coutumes et les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. Le khara, elle est habituée aux hamburgers, elle est habituée Oh. C'est une cuisine bien particulière. On va dire occidentale. Ouais. L'akhor, il lui faut son marga. Il lui faut son kasra. Il lui faut son tagine. Et pas n'importe lequel. Il faut qu'il ressemble à celui de sa mère. Bah, vous rigolez, ça fait de dabza. Hein. Que ça vous plaise ou non. L'akhor, c'est un arbé. L'akhor, c'est pas une arbia. Vous savez, hna l'arabe. Je vais à la mosquée. Salam alaikum les frères. Ça va les frères? Ouais, alhamdoulilah, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Viens, on va aller boire un thé. Bah, il vient, il débarque à la maison avec 4-5 frères. Tu peux pas faire un. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Oh, prends la tête, cette femme folle. Mais moi, ma mère, mon père, ils ramenaient des gens à la maison sans prévenir. Hein, les invitations. Ben, ça dépend des coutumes. Chez nous, ça se fait, les. Ça se fait. Bien. Pas nous, on est des Occidentaux, mais je parle de mes parents. Ça se fait, hein, les invitations comme ça. La femme skinner, hop, elle se débrouille, elle fait. Ouais, mais ça se fait pas chez tout le monde, hein, ça. Les habitudes. Ouais. Pire, vous savez quoi? L'autre, il s'est marié avec l'autre. Quand il s'agit d'acheter les meubles, Debza. Moi, je veux mes sdarés. Non, moi, je veux mon salon. Ça fait des disputes. Vous pouvez pas. Allez, vous pouvez en rire maintenant. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que ça vous paraît lointain. Wallah, la plupart des conflits sont dus à des choses de la vie. C'est le quotidien. La cuisine, ouais, les rapports avec la famille, la gestion de la maison. Dernier conflit là, auquel j'ai dû assister, c'est quoi? Les vacances approchent. Qu'est-ce qu'on fait? Ben moi je vais là, l'est. Non, on va l'ouest. Ouais, mais toi, tu vas toujours à l'est parce qu'il y a ta famille, mais moi et ma famille à l'ouest. Moi, j'ai encore mon grand-père, mon oncle, ma tante, ma truc. Non, la femme, elle doit suivre l'homme. Moi, je sais que je dois te suivre, mais change un peu de direction de temps en temps, ça me fera du bien. Non, ta famille. Regardez, ça fait un problème. Ça fait un problème, les frères. Ah ouais, mais bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais en tant que musulman, le mari, bah, il va prendre sa femme. Mon œil, en tant que musulman, ici, à la mosquée, quand tu rentres à la maison, il n'y a plus d'islam. Vous savez, quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a. Soit tu fais ce que j'ai envie et ce que je veux et je t'aime bien, mais alors là, si t'as le malheur de ne pas aller dans mon sens, c'est Dabza, la bagarre. C'est ça qui gère nos couples musulmans aujourd'hui. Le hawa, la passion. T'es une bonne épouse quand tu suis mes passions. Quand tu ne suis plus mes passions, c'est la guerre. C'est ça, hein, les problèmes dans les couples aujourd'hui. Alors, dites-moi, est-ce qu'on doit tenir compte de cette histoire d'origine et de culture, oui ou non? Moi, je vous dis, je crois qu'en ce qui concerne cette deuxième génération, la nôtre, on ne peut pas faire abstraction de manière totale de cette histoire de culture. Peut-être la troisième génération, oui. Hein, on sera vraiment des Français à 100%, des Occidentaux à 100% musulmans. Mais la deuxième génération, on a encore un peu de gêne à nos parents, hein, culturels. Ils sont là. Vous allez être étonnés. Vous vous rendez compte? Des sœurs d'origine française, à 100% française, musulmane. Statistiques à l'appui, vous savez qu'est-ce qu'elles me disent? Elles me disent, Hassan, conseille aux convertis d'épouser des convertis. Eh oui. Les convertis aux convertis. Je lui dis pourquoi? Elle dit, bah regarde-moi, je suis converti à l'islam depuis 20 ans, Allah ibarak, je me suis marié avec quelqu'un qui est d'origine X. Ça ne va pas. Et c'est pas à cause de l'islam. Hein. Je lui dis c'est à cause de quoi que ça ne va pas? Elle m'a dit c'est des questions culturelles. Point à la ligne. Culturelles. Chacun sa mentalité, hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que quand tu épouses une musulmane, c'est une musulmane qui est sortie du livre, là, le Bukhari. Tu l'as pris du Bukhari. C'est une musulmane qui est sortie d'un milieu, c'est une musulmane qui est sortie d'un contexte, c'est une musulmane qui est sortie d'une philosophie. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est imprégnée, et il est imprégné de mille et une choses autres que la religion. Et ces choses font partie de sa personne, de sa personnalité. Et si toi tu ne tiens pas compte de ces choses-là, tu veux imposer tes dimensions culturelles, ce qui fait ta personnalité sans tenir compte de la différence, tu vas voir si ça va marcher. Donc, à mon avis, nos parents n'ont pas tout à fait tort quand ils nous disent « Essayez de vous marier avec quelqu'un qui est plus proche de vous. » Non pas au niveau religieux, si on est d'accord, mais même au niveau culturel. Vous avez posé la question qui est « Ouais, d'accord, je vais me marier avec Tahar, c'est un bon musulman, il a un bon comportement, il n'est pas de la même nationalité, mes parents ne veulent pas, qu'est-ce que je fais ?» Ben, je vous dis, essayez de trouver un autre Tahar qui est un bon musulman, qui a un bon comportement et qui a une, la bonne nationalité, la bonne culture. Vous savez pourquoi? Combien de sœurs se sont mariées malgré l'avis des parents? Avec X, de frères qui se sont mariés malgré l'avis de leurs parents avec Y, et ils ont rompu les liens familiaux avec leurs parents, les leurs, le frère avec les siens, la sœur avec les siens. Ils sont retrouvés seuls. Le mariage, c'est beau pendant 6 mois. C'est la lune de miel. Et après, quand les problèmes commencent à faire surface, ben la sœur Mskina, la mélancolie, ma famille, ouais, le frère aussi, la mélancolie, et les disputes et les bagarres. Alors, dans cette histoire de culture et de nationalité dans le choix du conjoint, le top est l'idéal, comme je vous dis. L'idéal, c'est quoi? C'est de choisir le musulman qui correspond à vos critères et qui correspond aussi aux critères des parents, tant qu'ils ne sont pas des critères anti-islamiques. Et c'est pas bien d'entrer en conflit avec ses parents. Wallah, il y a beaucoup de sœurs qui sont en instance de divorce. Certaines qui ont divorcé, qui m'ont dit, et je vais le faire parce que elles ont assisté, elles m'ont dit de dire, Hassan, tu diras aux sœurs, si les parents ne sont pas d'accord dans leur choix du conjoint pour des raisons culturelles et de nationalité, qu'elles ne désobéissent pas à leurs parents, qu'elles épousent le bon musulman que leurs parents acceptent, car elles le regretteront, non pas la première année, mais dans 5 ans, dans 10 ans. Je vous parle de sœurs qui ont 5 ans de mariage et qui divorcent et qui regrettent de ne pas avoir obéi à leurs parents. Donc, tenez compte du choix des parents quand il ne va pas en contradiction avec l'islam. De même, dans le choix du conjoint, il faut tenir compte, vous savez de quoi? De son rang social. Eh oui, il ne faut pas l'oublier. Jadis, quand j'avais lu dans le madhab de l'imam Malik, l'avis qui disait qu'on ne donne sa fille qu'à quelqu'un qui est du même rang social. Je me suis dit, mais c'est du racisme économique, ça. Ouais. Les riches aux riches, les pauvres aux pauvres. C'est du racisme économique. Mais après tout, après le recul, waouh, j'ai dit, ces savants-là, ils ne parlaient pas dans le vide. C'est vrai qu'il n'y a pas de hadith qui dit les riches aux riches, les pauvres aux pauvres. Mais ils parlaient par rapport à quoi? À des réalités socio-économiques. Et nous, quand on est jeunes, l'amour aveugle. Hein ou non? Il n'y a plus de raison. Il n'y a qu'une chose qui marche, ce sont les sentiments. Après, on pleure. Hein? La sœur, elle a un train de vie, mashallah. Elle a toujours vécu avec des parents riches. Elle a toujours vécu dans un palace. Et le frère, c'est un Abu Huraira. Abu Dhar, pardon. Zod, il la ramène chez lui. Elle cherche les meubles dans la maison, il n'y en a pas. Et la machine à laver. Prenez un sunna, lave avec eux. Et le salon et les chaises, par terre. L'arabe, le frère, il n'a pas les moyens. Elle lui dit, oh là 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 là, attends, mon petit, je vais aller voir mon père et ma mère. J'étais mieux chez eux. Eh oui, que vous le vouliez ou non, c'est la réalité. Vous allez me dire, ouais, mais une sœur, si elle craint Allah. Elle craint Allah. Je te jure, elle a pas sa machine à laver, tu vois ce qu'elle va te faire. Ce qui est tout à fait logique et normal. Hein. Ah oui, je... Parce que va laver les vêtements tous les jours. Je te jure, tu te crains. Elle a raison. Mais Mskin, il n'y a pas les moyens. Ou là, c'est pas dans sa culture. Ça crée des problèmes. Vous savez, le niveau les niveaux socio-économiques créent des problèmes dans les relations. Donc, tenir compte du rang. Même tenir compte aussi du niveau intellectuel. J'ai un problème dans un couple. Vous savez, c'était quoi? C'est le frère. Il me dit comme ça, une texto. Je me suis trompé de femme. Je lui dis, Subhanallah, ta femme, elle est bien. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non. Je discute avec elle, ça va pas. Elle n'a pas de connaissances. Au niveau intellectuel, c'est pas ça. Et moi, tu sais, j'ai fait des études. J'aime bien quand je discute que j'ai quelqu'un qui me tient tête. Eh oui, les frères, les sœurs. Ça compte et ça joue. Faut tenir compte de cela aussi. Dans le choix du conjoint, faut tenir compte aussi du physique. On n'a jamais dit que c'était pas bien. Non, il faut en tenir compte. Et qu'on le veuille ou non, on a été influencé par les médias. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec nos musulmans pieux là, qui font Qiyam al-Layl? Vous savez pas ce qui se passe? Mais il se passe, on a des musulmans qui font le pèlerinage, qui font le hajj. Ouais. Et qui maintenant regardent les films porno X. Vous savez pourquoi? Parce que sexuellement parlant, ils ne sont pas satisfaits. Parce que leur femme ne correspond pas à leur idéal sexuel. Dans le mariage, il ne faut pas jouer au poker. Ce n'est pas la roulette russe. Il faut mettre toutes les cartes de son côté pour que ça marche. Et si ça marche, vous avez de la chance. Car Allah, la meilleure des choses qui existent sur terre, vous savez, c'est quoi? C'est l'amour. Et quand il y a de l'amour dans un couple, t'es heureux, t'es content, tu es épanoui. Et c'est un miracle, l'amour. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. C'est un miracle de Dieu. Vous savez, le fait qu'il y ait un couple. Mais c'est un miracle à une condition. C'est laquelle? Waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmatan. Ah, il faut qu'il y ait de l'amour et de la miséricorde. Sinon, c'est une punition. Ah, c'est un enfer. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de miséricorde, t'es pas clair. Mais pour qu'il y ait de l'amour et de la miséricorde, tu sais ce qu'il faut faire? Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Faudrait peut-être un peu réfléchir. Non? Avant de se marier, avant de choisir. Bah, il faudrait faire ce que vous êtes en train de faire. Bravo. Fath Allah et tous ceux qui organisent cette journée. Elle nous permet de quoi? Bah, de penser un peu sur quoi? Sur cette chose qui s'appelle le mariage pour essayer de réussir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la meilleure des choses qu'il faut thésauriser, le kenz, le meilleur des trésors, c'est lequel? Zawjatun saliha, une bonne épouse. Pour les femmes, un bon époux. C'est le meilleur des trésors. Alors, si tu veux une bonne épouse, mon frère, fais un stage d'apprentissage pour être un bon époux. Toi aussi, ma sœur, apprends à être une bonne épouse. Peut-être tu vas reconnaître le bon époux, puisque tu sais ce que c'est un bon époux, une bonne épouse. Et puis, Wallah, il faut s'en remettre à Dieu énormément. D'accord? Pour que Dieu nous préserve d'un conjoint raté. Car l'un des plus grands malheurs sur terre, c'est d'être lié à quelqu'un malgré nous. Tu sais, tu te disputes avec ton père, ça fait mal, hein? Mais tu prends ta valise, tu t'en vas. Oui ou non? Tu te disputes avec ton frère, tu prends ta valise, tu t'en vas. Mais quand tu te disputes avec ta femme, ben je vous dirais, tu prends ta valise, tu t'en vas. Oui, ça marche. Mais quand il y a des enfants, qu'est-ce que tu fais? T'es cuit, mon frère. Si tu as un peu d'amour pour tes enfants, Wallah, tu te suicides. Tu te suicides psychologiquement. Hein. Ah ouais, Wallah, c'est... Ah, tu es condamné à vivre avec une personne que tu détestes, tu ne la supportes plus, elle te rend la vie impossible. C'est la prison à vie. Parce que tu es obligé de rester pour tes enfants. Et c'est ce qui se passe. Vous rendez compte des musulmanes pratiquantes à fond la caisse, mariées avec des musulmans pratiquants à fond la caisse. Et vous savez qu'est-ce qu'elles disent, ces musulmanes? Elles disent, Wallah, s'il n'y avait pas les enfants, je serais parti depuis longtemps. Je comprends rien. J'avais si souvent dit dans des conférences, pour que ça réussisse dans le couple, il faut le Coran et la Sunna. Et punaise, on a affaire à des frères qui sont dans le Coran et la Sunna, des sœurs qui sont dans le Coran et la Sunna. Et le résultat, c'est que la sœur, elle te dit, Wallah, s'il n'y avait pas mes enfants, je me tire et je t'annonce les couleurs, je vais me tirer dès que mes enfants seront grands. Et pourtant, le Coran et la Sunna sont là. Alors expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Là, il se passe que faut qu'on continue à penser, à réfléchir pour bien appréhender cette question du choix du conjoint et puis apprendre à vivre en couple, apprendre à vivre ensemble. Comme je vous ai dit au début, tout ce que je dis n'est pas parole de Coran, hein. J'ai cité très peu de versets de Coran et de Hadith volontairement pour vous dire que il y a beaucoup de choses à discuter. Il ne faut pas avoir peur de la discussion. Je m'arrête ici, à vous la parole. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.